Alors, on va clôturer cette partie animation. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de films qui sont sortis sur l'été avec Happiness Road. Justin, je te redonne la parole.
Oui. Donc, Happiness Road, donc, c'est un film taïwanais, si je me souviens bien. Donc, comme c'est original, on n'a pas l'habitude de voir de cinéma d'animation qui vient de ce pays. Et donc, c'est un pitch un peu qui peut rappeler le film de Takahata, Souvenir goutte à goutte. C'est-à-dire, c'est une jeune femme qui est en difficulté au niveau de son couple avec son mari, donc qui est une Taïwanaise émigrée aux États-Unis, donc qui est mariée avec un Américain et qui a des problèmes de couple, qui va retourner dans sa ville natale. Et donc à travers ce retour, il y a tout un flashback qui se fait sur son enfance, et donc là-dessus, il y a une réflexion qui se fait par rapport au rapport qu'elle a avec Taïwan, avec l'étranger, parce qu'en fait elle fantasmait enfant pas mal des États-Unis. Il y a une culture de renier un peu, en tout cas dans les scènes d'enfance, il y a une culture de renier la langue taïwanaise pour le cantonais, ou en tout cas les langues des étrangères. Il y a une espèce de déni qui se fait par rapport au patois local, et donc du coup ça s'inscrit en elle, et elle n'aspire que à quitter sa ville pour aller ailleurs aux États-Unis. Et donc tous les flashbacks, voilà, qui remontent de son enfance jusqu'à son adolescence, jusqu'à l'âge adulte, quoi, elle va partir à l'étranger. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, à travers le rapport à ses parents, son rapport aux autres. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage, la meilleure amie d'enfance de ce personnage, qui est une métisse, ouais, qui est une métisse, un personnage blond aux yeux bleus, voilà, pur look d'animation japonaise un peu occidentalisée, et qui est un peu rejetée, voilà, qui est mise de côté, alors que c'est qui se considère comme taïwanaise. Donc c'est un peu l'inverse du ressenti de l'héroïne là-dessus. Donc il y a un questionnement sur les origines, sur le rapport aux ancêtres, parce qu'il y a un personnage aussi de grand-mère, la grand-mère qui suit durant l'enfance l'héroïne, et qui lui enseigne tout ce qui est tradition, tout un aspect, même au niveau de la cuisine, au niveau des petits remèdes de guérison. Et donc il y a un aspect, et là ça serait une position avec la ville, entre la ville et puis l'aspect rural. Donc il y a, voilà, toute une position entre les origines et ce qu'on aspire à être, là où on aspire à aller. Et donc la conclusion est censée équilibrer une espèce d'équilibre interne du personnage qui se retrouve par rapport à toutes ces influences.
Gaël, tu approuves ?
J'approuve totalement. Enfin, pour moi, c'est un des films de l'été. Mais en même temps, enfin voilà, bon, j'ai fait le dossier de presse, donc clairement, enfin, pour être complètement transparent. Donc j'aime beaucoup le film.
Donc tu approuves.
Ouais.
Alors il y a eu d'autres films, on va être très très rapide, hein, sur les autres films. Peut-être qu'on va parler de Caniba, Romain. On a pu lire ta critique. Est-ce que tu peux nous rappeler ce dont il s'agit?
Alors en fait, c'est les deux réalisateurs d'un documentaire qui s'appelait Léviathan, qui ont décidé à la suite de ça de se rendre au Japon pour rencontrer Issei Sagawa, qui s'est rendu célèbre, c'était en 81, pour avoir tué et dévoré une amie de la Sorbonne, avec qui il avait
un soir.
Ils finiraient pas tous comme ça. Et du coup, en fait, il l'a invité chez elle un soir, parce que il était vraiment très proche d'elle, sauf que c'était pas très réciproque. Et il lui a mis un coup de feu et il l'a dévoré. Il essayait de se débarrasser du corps.
Normal. Il s'est pas jeté dessus, dévoré.
Si, dans la foulée, si. Enfin bref, il a essayé de se débarrasser du corps, sauf qu'au moment de se débarrasser du corps, la police l'a intercepté. Et son procès était très médiatisé, parce qu'il a été acquitté, tout simplement. Ça a beaucoup choqué l'opinion publique, parce que quand il avait commis le pire des crimes en France, qui était quand même l'homicide et le cannibalisme.
Le procès a eu lieu au Japon. Hein.
Oui, mais en France, il a eu un non-lieu.
Il est passé un peu en HP.
En fait, il a eu droit à un non-lieu, et il a été placé en hôpital psychiatrique à Villejuif, et après, il a été à nouveau expatrié au Japon. Voilà, parce que.
Un peu de calme, parce que je vois que c'est un sujet.
Voilà. c'est que Issei Sagawa a un père qui est très très influent et très très riche, donc très il a pu négocier entre guillemets le retour de son fils au pays, qui a quand même fait un petit séjour dans un hôpital psychiatrique dans la banlieue de Tokyo, mais qui en est sorti très très rapidement. Et ce qui a encore plus choqué l'opinion publique, c'est que tout le reste de sa vie s'est basé sur son acte, c'est-à-dire qu'il a participé à des émissions racoleuses au dernier degré, à des films pornographiques ayant de près ou de loin un rapport avec son acte.
Celui d'Isayasu Sato notamment, qui est bien.
Et il a surtout, et là le comble de l'horreur, c'est qu'il a quand même été consultant pour la police lorsqu'un autre tueur en série a commencé à tuer des enfants au Japon. Voilà.
Le otaku killer,
c'est pour ça. Et donc, pour en revenir au film, les deux réalisateurs l'ont retrouvé dans un état maintenant qu'on peut qualifier d'un peu à l'agonie.
Post-AVC.
Voilà. Mmh. Et donc, ils vont le retrouver, essayer de le faire un peu parler, sauf que Issei Sagawa, après un AVC, il est plus très bavard.
Et donc, le dire.
Ces deux mots, il exprime aucun remords ni quoi que ce soit par rapport à son acte. Il a même une espèce de frustration de pas être reconnu à sa juste valeur. C'est ça qui est un peu malsain, parce que tout le monde le voit comme un monstre, alors lui, il se perçoit juste comme une victime qui a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Et en plus, on découvre qu'il est aidé dans sa fin de vie par un frère qui est au moins aussi pire que lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est narcissique au dernier degré et qui, dès qu'il voit une caméra sur son frère, ne peut pas s'empêcher de se mettre derrière pour être dans la lumière. Et pas raconter le film, mais il a aussi des pratiques sexuelles, des petites habitudes qui confinent au sadomasochisme extrême à base de mutilations et de fils barbelés.
La famille, ça.
Voilà.
C'est la famille.
Et donc le documentaire peut déstabiliser déjà sur le fond, parce que c'est quand même, on revient sur un crime qui est particulièrement horrible, et sur la forme, parce qu'on ne va jamais sortir de l'appartement de Sagawa, on ne va jamais mettre le pied dehors, et tout le film est cadré en très très gros plans sur Sagawa qui parfois ne dit rien.
Beaucoup de zoom.
C'est beaucoup de zoom. Beaucoup de plans.
Alors, Elias, Justin, il arrive.
Oui,
c'est une épreuve.
Voilà, c'est pas facile à regarder déjà parce que c'est très cadré, très très flou avec des longs plans fixes, etc. Et il y a des petits électrochocs, notamment un encart totalement gratuit porno à 100% parce qu'on a un extrait de film de ce qu'il a fait. Et voilà, c'est ce genre d'enchaînement très très calme, violence des images très très calme, violence des propos avec le frère qui intervient à intervalles réguliers, qui peut déstabiliser. Moi j'ai trouvé ça très bien parce que c'est une plongée vraiment sans filet dans un esprit complètement malade, parce qu'à aucun moment il va s'excuser ou quoi que ce soit. Et ouais, moi ça m'avait retourné quand je l'avais vu. Effectivement, ça peut rebuter, le format peut rebuter, je pense.
Du coup, Elias, est-ce que c'est la forme qui t'a rebuté ou...
Ouais. Très clairement. Parce que, en fait, du point de vue du traitement, au final, il y a des très bonnes idées dans le film. Notamment, moi, il y a une scène que j'ai adorée. C'était. Kuroi Sekisagawa a aussi écrit un manga sur son acte. Où vraiment, où tu le vois, où il a dessiné et écrit un manga, où tu vois.
Il y a celui qui a fait les dessins.
Oui, celui qui a fait les dessins. Qui est vraiment, du coup, tu le vois, genre, au train de dessiner lui-même, au train de bouffer la meuf, etc. Donc, ce qui est assez hardcore. D'ailleurs, juste petite anecdote, je voudrais aussi rajouter au nombre de trucs qu'il a fait. Au Japon, il a aussi écrit un livre de cuisine. Je trouvais ça assez rigolo. Du coup, je voulais le dire. Mais bref. Et du coup, cette scène-là où en fait, il va lire le manga, il va montrer les images du manga en direct devant la caméra. Et à côté, on aura son frère qui va lire pendant. La scène dure 10 minutes, vraiment plan fixe sur le manga où il tourne les pages. Et après, son frère va dire: ah non, arrête, c'est horrible. Par contre, il fera rien pour arrêter. C'est-à-dire que son frère, Issei Sagawa, va lire son manga en live pendant 10 minutes, et son frère va lire en fond pendant 10 minutes: arrête, c'est affreux, mais il ne fera rien pour arrêter la lecture du livre, ni pour couper la caméra, ni pour rien. Et vraiment, cette scène-là, je trouve, est vraiment ultra. Montre vraiment beaucoup de choses sur ce qu'on pense de cette affaire-là, c'est-à-dire qu'au final, même si tout le monde pense que c'est horrible, tout le monde est intéressé par le film, tout le monde est intéressé par l'histoire. Et il y a vraiment un discours sur le voyeurisme qui est fait dans cette scène-là, qui est très bien réussi. Après, la forme. Disons que le fond est ultra intéressant. Issei Sagawa, je connais l'histoire depuis assez longtemps. On a même un projet de film dessus avec Kefren ici présent.
Et du coup, moi j'ai une anecdote aussi.
et du coup, c'est une histoire qui est ultra intéressante. Vraiment, la psyché humaine dans ses pires défauts, etc. Le problème, c'est que faire des plans fixes de 15 heures sur un œil qui tourne, c'est pas forcément la meilleure idée. Et que si effectivement un côté hypnotique ou un côté très physique peut être lié à cette démarche visuelle, ça marche franchement assez peu, et au final, vraiment, il y a un rythme qui est tellement lent, qui est tellement traînant, qui n'est pas aidé par le fait qu'Issei Sagawa dit deux mots à la minute, et on sort assez vite du film, je trouve, et à la fin, on est plus en espérant délivrer du film que, que pour continuer. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ?
Non, en fait, moi, j'ai vu Léviathan.
Ouais.
Et du coup, je voulais savoir s'il y avait un lien de près ou de loin avec, dans le style. De...
C'est les zooms, en fait, c'est les gros plans.
Ouais, ouais, parce que Léviathan, c'est vraiment quelque chose, c'est pareil, c'est une espèce de... C'est sur un bateau de, de, poisson, de pêcheurs de crevettes, je crois, c'est ça. Je ne me rappelle plus, pendant presque tout le film, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et c'est la caméra qui est sur le bateau en permanence, en pleine tempête, parfois, avec des vagues de 2-3 mètres. Et en fait, il joue sur l'espèce d'abstraction que le mélange d'eau, de métal, de poisson, de machin, peut créer avec le bateau qui rentre dans l'eau, qui ressort, avec les bruits, les sons. Et il y a beaucoup de travail, justement, sur la forme un peu parfois abstraite, voire hypnotique, et les sons et tout ça, et je voulais savoir.
Là, c'est pas abstrait du tout, c'est vraiment très très rapproché du corps. C'est abstrait dans un sens que on voit jamais en entier, c'est-à-dire ouais, on voit très rarement son frère en entier. Ce moment où on le voit en entier, c'est pendant la scène pornographique, du coup, qui est filmée de la scène.
Mais bizarrement, moi j'ai trouvé ça intéressant de le montrer vraiment parfois, soit par bout, etc. Parce qu'ils réussissent à le déshumaniser complètement et on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de monstre à visage humain en train de dormir. C'est que des fois, il a l'impression de somnoler, mais il a toujours cette lueur dans le regard qui fait qu'il a l'air parfaitement conscient de ce qu'il a fait et qu'il sait le pouvoir de fascination qu'il a. Des fois, il regarde la caméra et il y a tellement d'émotions qui passent dans son regard, moitié éteint, moitié je vais dire un truc pour choquer, etc. Ça rend le truc vraiment... Il le déshumanise.
Il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire sans s'attendre à avoir un documentaire, on va dire, standard, avec voix off... Et narration classique, ou même sans s'attendre à ça, il y a quand même, je mets au défi quelqu'un qui ne connaît pas le fait divers qui tombe sur ce film de savoir de quoi ça parle. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en perspective, il n'y a absolument rien du tout. On est plongé dans. C'est ce qui est. Enfin, c'est une approche comme une autre. Mais au final, on ne sait pas.
Et puisque les gens nous ont écoutés maintenant. Ouais.
Oui, non mais bon...
Sur Google, ils vont voilà, pas être déçus du voyage.
Voilà, je mets à la place de quelqu'un qui met le film... Au final, ouais, il aura vu des frics dans un appartement se faire filmer en zoom et en dézoom. Même le fait divers initial, il est quasiment pas introduit. Bon, il y a le moment où il lit le manga, mais on ne fait pas forcément le lien avec le fait que ça soit un acte commis par des personnes qu'on a à l'image. C'est assez confus, finalement... Que soit dans la. Pourtant, je dis ça sans exiger une narration standard, un documentaire balisé, mais il y avait possibilité d'équilibrer entre ce traitement un peu assez radical et puis une mise en perspective. Là, il n'y a pas ça, c'est vraiment. J'ai l'impression que ça donne, c'est qu'ils ont été le filmer au Japon sans savoir l'état de délabrement physique dans lequel ils étaient. Et après, ils ont filmé non-stop et puis ils ont fait avec ce qu'ils avaient. En termes d'image, et en plus ils ont eu de la chance, ils sont tombés sur le frère qui s'avère être encore plus siphonné. Donc j'ai l'impression, voilà, c'est un traitement un peu assez brouillon finalement.
Non mais ils ont un vaste dispositif en fait, de gros plans.
Oui mais le problème c'est que faire des gros plans pour montrer qu'effectivement l'argument est vachement bien par rapport à la déshumanisation, etc. Le problème c'est, est-ce que ça va obliger de le montrer en plan fixe, manger un pain au chocolat au ralenti pendant 10 minutes? C'est-à-dire,
et c'est vraiment quand on dit 10 minutes, c'est 10 minutes.
Oui, c'est vrai.
Quand je dis 10 minutes, il y a un passage.
Oui, mais c'est aussi leur dispositif d'abstraction et d'esthétique du monstrueux.
Ça a l'air bien,
mais tu parles. Oui, mais dans Léviathan, du coup, ça fonctionne comme ça.
Pour conclure, Kefren, tu disais que tu avais une petite anecdote à nous
raconter. Ah oui, mais du coup, il y a 2 ans, on a eu l'idée de faire le film avec Elias comme ça. Et moi, j'ai fait mon enquête. Et en fait, je connais toute l'enquête par cœur et tout le fait divers. Et je suis allé à la maison de Issei Sagawa, qui est dans le 16e arrondissement. Et j'ai fait,
par hasard.
Et j'ai fait le chemin depuis sa maison jusqu'au bois de Boulogne. Et en fait, c'est pas si loin, ça dure 10 minutes, mais c'est bizarre qu'on l'ait pas attrapé avant. Parce qu'en fait, dans l'enquête, il part de chez lui avec la femme découpée en morceaux dans un sac poubelle. Et il va au bois de Boulogne. Et en fait, c'est à genre 10 minutes, 15 minutes de chez lui à pied. Et c'est bizarre qu'on l'ait pas attrapé avant et qu'on l'a attrapé qu'au bois de Boulogne. Et...
Ouais, il avait peut-être bien découpé, voilà. Ça se voyait pas dans le sac poubelle.
Et... Non, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, il est frêle et tout. Et voilà, mais du coup, son appartement est dans un quartier bizarre. Si vous allez dans la rue de son appartement, genre, l'architecture est bizarre.
Je pense qu'il a des complicités dans le 16e arrondissement, en fait.
Comment? Non, ah, je pense. Non, je pense pas.
C'est Zemmour, c'est Zemmour.
Mais genre, son quartier est très bien, mais genre, l'architecture du quartier anglais, genre, c'est bizarre en fait.
Il ne se passe pas grand chose non plus dans le quartier, passé une certaine heure. Qui plus est au bois de Boulogne, je pense que c'est
bien. Moi, je veux un film sur l'enquête de Kefren dans
le pèlerinage.
On va voir ça avec Elias, du coup.
Et puis pour le fait divers, en fait.
Avec Edouard Montout dans le rôle de Kefren.
Le fait est que le fait divers. À titre d'exemple, pour revenir sur ce que tu disais sur les gens qui connaissent ou pas le fait divers, le cas Sagawa, c'est, ça fait 3-4 par an, on a droit à un refresh, etc. Il y en avait un sur France Inter ou Enquête, je sais pas quoi, qui était revenu dessus. Il y a toujours un reportage de fin de soirée sur MT1. Ouais. Maintenant, il a dévoré quelqu'un, mais ouais. Comparé à ce qui se fait maintenant en matière de faits divers crapoteux qui passent à la télé, etc., c'est pas non plus trop loin, il y aura toujours une chaîne pour rappeler à intervalles réguliers
les archives. Enfin, cannibalisme, c'est pas tous les jours.
En tout cas,
si
quelqu'un nous écoute, c'est parce qu'on s'est sur le fait divers, je vous conseille le reportage en deux parties sur Vice. Qui est franchement.
Ça m'étonne pas.
Vice, j'en pense pas que du bien, mais pour le coup, le reportage est vachement bien foutu. Donc ça dure une heure, c'est très sympa. Et les images du corps. C'est vachement chouette et je vous conseille vraiment, c'est super sympa.
Ah oui, par contre, sur l'internet chinois, il y a des images hardcore. En fait, il y a les images de la police française, je sais pas comment ils les ont, mais sur l'internet chinois, ils ont les images de l'autopsie de la meuf et tout.
René, sur Google, elles y sont, c'est pour ça, donc c'est pas...
Alors, on va conclure cette partie...
Bref, c'est dégueulasse ce qu'on vient de dire, mais je suis désolé.
Sur Kalima, mais aussi sur les films en salle actuellement. Alors, on n'a pas parlé d'invasion de...
Quoi ?
Chez Kurosawa.
Quoi que ouais.
C'est vachement bien.
Mais oui. Parce que c'est bien et qu'on a.
Mais c'est mieux que Cannibal, genre.
Oui, largement.
Alors, on va en parler deux minutes. Alors, Elias, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher le film rapidement, même si on l'a
fait. Alors, Invasion, c'est littéralement le meilleur piège de tous les temps. Enfin, et en gros, c'est un, pas un spin-off, mais c'est un film qui se passe en même temps que le film qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle de Kurosawa, du coup, qui s'appelait. Avant toute disparition, au début de l'année.
Ouais, au début de l'année, en fait. Je crois.
Au mois de juin, je crois que c'était.
Au mars même.
Ah ouais, bon bref, voilà, donc qui est sorti du coup mars ou avril cette année-là, qui est sorti à Cannes l'année dernière, pour ça que c'était l'année dernière, et qui du coup raconte l'invasion de la Terre par des aliens dont le but, est, on aurait eu des éclaireurs au début, pour en fait comprendre l'être humain et ainsi aspirer les concepts humains aux êtres humains qu'il rencontre. Donc par exemple, un alien va voir une meuf, va lui faire « c'est quoi la famille ?» Du coup, la meuf va faire ça à la famille, et lui va lui aspirer le concept de famille. Ce qui fait que du coup, elle ne saura plus ce que c'est qu'une famille, et lui le saura. Et du coup, en prenant ce pitch que je trouve absolument fabuleux, Kurosawa va prendre
totalement... Qui est une pièce de théâtre.
Ouais. Alors, va prendre totalement à contre-pied, du coup, le premier film qu'il a fait, qui était très explosif, qui parlait de plusieurs histoires en même temps, avec des fulgurances totalement baroques, qui étaient vachement bien faites. Il va vraiment faire un film très intimiste sur un couple qui est du coup joué par... Shota Sometani
et Kao.
Ouais. Donc Shota déjà, mais c'est déjà un bon point pour
c'est
le film.
Famille.
C'est la famille, exactement. Et du coup, Shota va être le guide d'un de ses aliens. C'est-à-dire qu'il va aider un de ses aliens à aller sur Terre à trouver des victimes pour du coup lui prendre leur concept. Et ils vont donc vivre à deux ce début du coup d'invasion extraterrestre et du coup ce début de fin du monde. Et je préfère largement l'autre film de Kurosawa, mais je trouve que ce film-là marche très bien aussi, quasiment uniquement par la force du concept, que je trouve est toujours un des meilleurs concepts inventés dans le cinéma dans ces dernières années, et que par la force de ce concept-là et la force des images, même si le film a une ambition bien moins grande que le dernier, et part dans des fulgurances bien moins grandes que le dernier, il marche très très bien dans cette situation intime d'un couple qui va être totalement ravagé par un pouvoir qui est bien plus grand que celui... un pouvoir bien plus grand qu'envisageable qui peut être envisagé sur Terre. Et l'histoire qu'il va raconter, les personnages qu'il va raconter, comment il va mettre ça en scène, je trouve ça exceptionnel et ça montre bien que Kurosawa marche
alors,
très bien.
J'ai pas encore vu le film, mais il faut peut-être préciser que c'est une série télé à la base de 5 heures, donc 5 épisodes, qui là a un montage de 2h10, 2h20. Est-ce qu'on le ressent pas justement ces coupes
je trouve que ça se ressent un petit peu. Il y a, au niveau de certaines transitions, voilà, on sent. Il y a certaines transitions où on sent, voilà, c'est une espèce de cliffhanger de fin d'épisode, on passe dans une séquence suivante. Il y a des petits moments où ça se ressent. C'est peut-être le seul défaut, parce que j'ai apprécié le film aussi. Mais il y a des petits moments, des petites longueurs ou des transitions où, voilà, parce que je l'ai vu sans savoir que c'était un remontage de série télé. Et j'ai ressenti ça, et quand je l'ai su, je me suis dit, ah, c'est pour ça que il y avait ces petits moments de flottement, d'enchaînement un petit peu bancal, quoi.
En tout cas, d'un point aussi, je viens d'y penser, d'un point de vue visuel, autant parfois avant son disparition était moins joli visuellement que Kurosawa pouvait faire ou était moins poussé artistiquement. Invasion, c'est vraiment pas le cas. Et c'est plan après plan, c'est que des plans sublimes, que des compositions incroyables.
Ouais. C'est le contraire. Moi,
tout est vraiment très très beau.
Gaël, tu es.
Non, moi je trouve qu'avant que la disparition, il est beaucoup plus pictural, enfin, notamment vers la fin. Quoi. Il y a vraiment des plans, je trouve ça super intéressant que Kurosawa reprenne la même pièce de théâtre et essayer de développer quelque chose d'un peu différent, comme tu dis. Invasion est beaucoup plus intimiste. Et je pense que, ouais, enfin, je sais pas, enfin, moi je savais que c'était un remontage d'une série, quoi. Et peut-être que ça joue avec, mais pour moi, Invasion est beaucoup plus un film qui est étudié plus pour le petit écran, quoi. Avec moins justement de l'envie de composer des plans.
Ouais, mais quand même, il y a des idées de ouf.
J'adore les deux films. Mais enfin, pour moi, je trouve que avant que nous disparition est beaucoup plus beaucoup plus grandiose
que le truc.
Alors voilà, pour conclure,
j'ai pas vu Invasion, mais que je vais aller voir. Je savais pas qu'il y avait Shota sur le
DVD,
donc la famille.
Shota.
Et du coup, parce qu'en fait, avant que nous disparition, c'était vraiment un espèce de patchwork de vraiment beaucoup de genres, de styles, de machin, très ambitieux au final. Alors que là, vous me dites qu'il y a un film, c'est vraiment un
drame familial limite de A à Z.
Oui, mais là, c'est très concentré dans le style de Kurosawa et justement dans son style fantastique. Et surtout, depuis son retour genre avec Shokuzai, et il utilise beaucoup genre des...
C'était pour la télé aussi.
Oui, mais justement, il utilise beaucoup des genres des travelling très lents et des choses comme ça qui n'étaient pas le cas genre avant son retour avec Shokuzai. Et justement, il porte cette mise en scène à des niveaux assez fous. Parce que genre, il y a le premier plan séquence qui introduit le film, je crois, dans la maison. Qui est assez fou parce qu'en fait, il raconte déjà tout le film en ce seul plan séquence. Et genre, Kurosawa a un niveau assez fou en termes de mise en scène. Parce que même dans les moments insignifiants ou picturaux, il arrive quand même à créer des images qui se valent et qui transcende le propos du film en quelque sorte. Comme et par exemple, il y a des plans de discussion avec genre Shota et Kao dans leur maison, et il arrive toujours à trouver un moyen d'exprimer l'enjeu de la scène juste de manière picturale. Et par exemple, à un moment, ils sont dans la cuisine, et le pilier qui fait la cuisine les sépare en deux, et etc. Et leur déplacement dans la scène joue justement la scène un peu comme dans... C'était quoi son film de l'année dernière? J'ai oublié le nom.
Creepy.
Ouais, voilà, un peu comme dans Creepy, justement, il y a un peu...
De l'année dernière.
le bien ou le mauvais?
Oh. Oui, voilà.
Pour moi, il n'y a que des bons l'année dernière.
Voilà, il n'y a que des bons. Merci.
Le particulier à particulier ou...
Non, et donc, il y a un peu cette mise en scène qu'il a dans Creepy d'un peu montrer l'aliénation par des choix de placement et sa mise en scène, ses mouvements de caméra dans l'espace, en fait, qui valent tout, genre les dialogues et les discours, et aussi son choix dans la lumière et la photographie qui est assez ouf, et surtout la scène du gymnase ou avec l'alien, et il est par exemple au milieu tout seul avec une espèce de lumière rouge et tous les autres sont en clair-obscur aux côtés de lui, et c'est assez ouf en fait, et c'est théâtral, mais ses mouvements et le jeu des acteurs donnent une dimension cinématographique assez supérieure au truc, et c'est pas de la télé lambda, et c'est vraiment du cinéma en fait, et du bon.
Très bien, alors on peut encore voir donc Invasion de Kiyoshi Kurosawa qui est en salle. Gaël, pour conclure sur Invasion.
Non, mais c'est juste que j'ai, enfin, d'un point de vue du spectateur, j'ai trouvé ça assez étrange avant que une disparition en fait arrive en début d'année et
il est sorti au mois de juin en fait,
c'est clair que le film a beaucoup mieux marché dans l'autre sens,
ouais, mais c'est surtout, enfin, je pense que
il les a fait comme ça,
en tant que spectateur il faut un peu plus de temps peut-être que s'ils avaient repoussé d'un an la sortie de l'invasion, ça aurait été peut-être
surtout qu'avant disparition a été un échec absolu au cinéma, je crois qu'il avait genre 4000 entrées, un truc comme ça, j'ai fait un autre à la fac, il a fait genre 4500 entrées.
Mais il n'y a pas de référence sur l'affiche d'ailleurs, à l'expression. Hein. Enfin, ils vont d'invasion ouais. comme un film de Kurosawa, point. C'est,
Alors que c'est.
Alors, on va clore cette partie. On n'a pas parlé de Lee Chandong parce que Burning va faire l'objet d'une partie entière. On va parler néanmoins de deux films pour conclure. Avant l'Aurore, qui est en salle actuellement en partenariat avec Istasia. Jérémy, on a une belle critique qu'on peut lire actuellement sur le site. Est-ce que en une minute, tu peux nous présenter le film ?
C'était bien. Non, alors déjà, je vais y pitcher. En lisant un peu, parce que je suis pas Justin, moi je sais pas pitcher. Donc c'est l'histoire de Mirinda qui est un prostitué français qui est au Cambodge et qui vit de petits qui survit comme il peut au milieu de cette misère, etc. Et il va faire la connaissance d'une petite fille une petite orpheline qui comme lui est un peu perdu, et on retrouve le classique la classique dynamique entre les deux êtres en perdition qui vont chacun se tirer vers le haut au milieu de ce bordel ambiant. Un bon buddy movie sympatoche, plein de fou rire et d'émotion.
Ah, c'est Shane Black,
hein. C'est ça. c'est un univers qui, faut prévenir, c'est très 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 âpre, très très sombre, c'est dur, c'est sale, on arrive presque à sentir tellement que c'est, voilà, il n'hésite pas, les acteurs en donnent beaucoup de leur personne, je pense à l'acteur David Dingéo qui est formidable parce que il se livre comme rarement un acteur se livre. On voit, il y a son corps dans les moindres. On arrive à sentir même les plis de sa peau. C'est assez impressionnant. Après, c'est un film qui est quasi documentaire. On voit, c'est plus un film sur le Cambodge dans sa globalité. On voit que c'est vraiment un pays malade qui n'arrive pas à se remettre qui n'arrive pas à se délivrer de ses démons et qui cette culpabilité que les personnages ont, c'est on ressent un peu ce que le Cambodge et ce que ses habitants vivent encore actuellement, qui vivent encore dans le passé et qui n'arrivent pas à se reconstruire vraiment. Et c'est un film sur la reconstruction de deux personnes c'est un peu cucu la praline, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension, etc., d'écoute, etc., vont se retrouver et vont se libérer de leur chaîne. Et c'est un film très lumineux, finalement, au milieu de tout ce caca. C'est très lumineux, et au fur et à mesure, on arrive à... L'espoir grandit au fur et à mesure. Au début, on se dit dans quoi on tombe. Ça commence par une scène de fellation dans un... Voilà, ça commence dans une scène de fellation super mal éclairée, super glauque. Et là, on se dit, ça va être le film indé de base. On filme vraiment la misère. On se dit, ça va être du Brillante Mendoza, ça va pas être...
Musique toulée.
Voilà, poverty porn. on se dit que ça va être ça, mais en fait, pas du tout. C'est très politique.
Avec tout le respect qu'on doit à Brian T. Mendoza.
Voilà,
Brian T. si tu nous écoutes.
Ah non, mais on a plus de respect pour Brian T.
C'était mon sauce, maintenant c'est plus mon sauce depuis qu'il soutient trop les dictateurs.
Non, c'est mort Brian T.
Mais voilà, en fait, c'est un très très beau film qui mérite d'être soutenu. Je pense que ça va pas brasser de nombreuses entrées, donc c'est important de soutenir ce genre de films qui sont différents. Voilà.
Très bien, donc c'est Avant l'Aurore qui est actuellement en salle. Si vous voulez des goodies, on a des bracelets. Avec... vous pouvez nous envoyer votre adresse à home@istasia.fr avec
votre
adresse.
J'ai hâte de pitcher le film à ceux qui vont voir.
Et on vous enverra votre bracelet avant que... Avant l'Aurore. Autre sortie...
Lourd.
C'est pas une blague, hein. Vous pouvez vraiment, il nous en reste encore pas mal.
Home@castellet.fr.
Autre ressortie, alors il y a eu beaucoup de ressorties cet été, il y a Carlotta qui a ressorti beaucoup de films d'Ozu, il y a eu des Kitano qu'on a pu revoir en copie restaurée, dont le Senat de Sik, hein, c'est...
Contrairement à ce que dit Alfonso Cuarón.
Qu'est-ce qu'il a dit encore lui?
Il est pas en France, Alfonso Cuarón en même temps, c'est un autre débat, c'est
Alfonso Cuarón par rapport à Netflix. Il a dit ouais, on peut plus vendre Ozu en salle, blablabla,
regardez son film, on va le voir où lui.
Et une autre sortie dont on est partenaire, c'est Anatahan, qui est un Joseph von Sternberg assez tardif, je crois.
C'est le dernier ou l'avant-dernier, 61. Je crois. Donc
voilà, sans Marine Dietrich. Mais qui a tourné entièrement au Japon. Justin, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler?
Donc en fait, le film, c'est en fait l'adaptation d'un fait divers réel qui s'est déroulé donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, il y a donc un bateau avec des soldats de l'armée japonaise qui échoue sur une île inconnue du Pacifique. Et donc, ils vont rencontrer là-bas une jeune femme et puis un homme qui habite déjà sur place, qui ont échoué là aussi. Donc, dans l'histoire vraie, en fait, ils ont été retrouvés relativement rapidement. Enfin, ils ont vécu un an et demi sur l'île sans croiser personne, sauf parfois des bateaux américains, mais qui étaient censés être ennemis, donc ils ne se manifestaient pas. Et ce qui s'est déroulé, c'est que finalement, à la fin de la guerre, ils ont été retrouvés par des Japonais, des bateaux japonais. Mais voilà, ils étaient tellement montés dans une psychose guerrière qu'ils pensaient que c'était une manœuvre de l'ennemi américain. Et ils étaient toujours en guerre, donc ils ont refusé jusqu'à ce qu'au final, les Japonais, leur famille, leur envoient des courriers pour leur prouver que la guerre était bien terminée et qu'ils acceptent de rentrer au pays. Donc ça, c'est ce qui, en fait, c'est l'histoire officielle qui a été racontée au départ quand ils sont rentrés au pays, sauf que c'est autre chose qui s'est déroulée sur l'île, c'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes étaient devenus plus ou moins amoureux de la jeune femme qui était sur l'île. Donc il y a une espèce de mélange de frustration, de désir à travers l'isolement sur cette île qu'ils dessinent. Donc il y a une rivalité... qui s'est faite, où ils se sont plus ou moins, pas tous, mais il y a eu des meurtres, ils se sont entretués pour cette femme. Et donc, von Sternberg décide de... C'est plutôt ce sujet-là qui l'intéresse, plutôt que l'aspect guerrier. Et donc, il va traiter de ça, voilà, la montée de sentiments d'isolation, de frustration, et la manière dont le manque voilà, de vie extérieure va se reporter sur l'amour un peu extrême pour cette jeune femme. Et donc il y a tout le filmage de l'île, il y a un côté à la fois naturalisme, à la fois très stylisé à la von Sternberg, dans la manière de parce que en fait c'est un film entièrement filmé en studio, il n'a pas du tout été filmé sur l'île même, c'était pas lui von Sternberg. Ce qu'il recherche, c'est l'artifice pour illustrer les émotions des personnages, il cherche pas du tout le réalisme, donc par moments l'île paraît assez factice, mais c'est volontaire. Par d'autres moments, on sent quand même le côté naturaliste, vraiment explicite. Et donc il y a tout ce traitement là et c'est un lieu, en fait il aime bien isoler, exprimer les sentiments des personnages à travers la description d'un lieu. On voit ça dans tous ces films hollywoodiens, soit Shanghai Express, Shanghai Gesture, donc où il y a cette recherche là donc on retrouve ça là, bah, à travers le traitement donc sur cette île. Et donc c'est un traitement assez radical vu que c'est tourné, donc en fait c'est un casting entièrement japonais, donc normal, sauf que il y a quasiment pas de dialogue, ou tout ce qui est dialogue et par-dessus il y a la voix off de von Sternberg lui-même qui surligne, parfois il surligne les événements, ou il raconte ce que les images n'expriment pas, ou ce que les dialogues japonais ne révèlent pas, donc il passe par-dessus, il y a un côté un peu comment dire, pas documentaire, mais il y a un côté omniscient en quelque sorte dans sa manière de scruter un peu les événements sur cette île. Donc c'est un traitement assez intéressant. Et donc c'est plutôt très réussi dans l'ensemble. Et ça sera pas malheureusement à la sortie du film, voilà, ça va être assez incompris à la fois lors de la ressortie au Japon, ou peut-être qu'il ressort un peu trop tôt, parce que le film date de 52 ou 53. Donc c'est peut-être un peu trop tôt par rapport aux vrais événements et par rapport au traumatisme de cette Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc en tout cas, ça va être un échec critique et public à la fois aux États-Unis et au Japon. Et malgré tout, donc c'est, avec le temps, c'est resté une des œuvres essentielles de von Sternberg, qui va d'ailleurs, vous pourrez peut-être deviner dans le film, il y a quelques scènes en plus avec des vrais extérieurs, où il filme des falaises, où il y a la jeune femme du film qui est filmée nue sur bord d'une falaise, et donc pour exprimer un peu plus le fond de sa pensée, donc il y a quelques éléments, il y a quelques scènes en plus comme ça qu'on peut deviner. Qu'on peut deviner dans un remontage, et c'est ce remontage-là qu'on a dans la ressortie avec ces quelques passages en plus, donc c'est très intéressant qu'on connaisse l'œuvre de von Sternberg ou pas, c'est une bonne porte d'entrée, c'est plutôt très réussi.
Très bien, c'est en salle actuellement, je crois qu'on a fait le tour des films de l'été, un tout petit peu plus d'une heure, c'est un exploit. On va maintenant parler de Burning et de L'étrange festival.